mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah. Parce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon. On entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de la 16e émission de Dicotylédonde, l'émission qui parle plantes et, pour cette fois, dans laquelle les plantes chantent. Début avril, on est parti dans les Cévennes. On y allait pour danser au festival trad de Saint-Jean-du-Gard, Boulégane. Et puis, en arrivant, on a vu installés dans la rue et la salle polyvalente des luthiers. Un village de luthiers et de luthières, d'hommes et de femmes qui travaillent, pour beaucoup, le bois pour en faire des instruments. Des gens, donc, qui ont un rapport à l'arbre, à la plante et à sa musique, qui donnent de la voix au végétal pour le faire sonner, souffler, résonner. Alors, ni une ni deux, on a emprunté un enregistreur et on est allé les rencontrer pour leur demander de nous parler de leur métier et de nous raconter, chacun, chacune, une histoire d'arbre. Il y a du bruit derrière, celui des flûtes, des harpes et des violons qui passent de main en main, qui s'accordent, qui se cherchent. Prenez ça comme le chant d'une forêt et laissez-vous embarquer par, pour commencer, la légende du roi aux oreilles d'âne.
En fait, ça me fascine l'histoire, l'idée que tous ces instruments avant étaient des arbres. Et du coup, je voulais vous demander si vous avez une histoire d'arbre particulière à raconter.
T'as du temps ? Il y a dans un conte qui, je pense qu'il n'y a pas de frontières, qu'on va retrouver des parties aussi bien dans la Grèce antique que dans les traditions celtiques très anciennes. Je vais essayer de te le faire un peu court parce que ça va être super long. Donc il y a le roi Midas, ça te dit quelque chose, avec ses oreilles d'âne. Donc il se cachait, parce que sinon il n'aurait pas pu accéder au titre de roi ou de seigneur parce qu'il avait une déformation physique. Bon, ça c'est d'autres considérations. Mais dans, on dit le roi Marc, où il y a d'autres noms dans les mythologies irlandaises. Et donc il avait un secret, ce roi, et tous les barbiers de la région qui devaient le coiffer, l'apprêter et tout ça, ils y passaient. Du coup, toute la région est décimée de ces barbiers, de ces coiffeurs, des gens qui prennent de soin du corps, jusqu'à ce qu'il y ait un jeune homme, qui, sachant qu'il y a du boulot parce qu'il n'y a plus de barbier, il y va, mais il arrive dans son métier, finalement, à séduire, à tromper le roi, et il devient son barbier officiel et il garde son secret. Mais ce secret est tellement lourd que d'année en année, il tombe malade. Et il va voir un vieux druide. Ce vieux druide dit, mais tu vas loin là-bas, tu vas avancer, tu vas traverser. Un jour, tu vas trouver un arbre. Et cet arbre, tu verras, tu vas le reconnaître tout de suite. Il a un énorme trou au centre de son tronc. Et tu vas pouvoir te vider de ce que tu as sur le cœur, en fait. Et tu vas voir, ça va te soigner l'arbre, il va absorber tout ça. Et du coup, il part en voyage, donc ça lui fait du bien. Hein, puis il marche et tout ça, ça le guérit. Puis à un moment, il tombe sur cet arbre et il le reconnaît tout de suite au milieu d'une clairière. Et il dit, le roi Marc a des grandes oreilles. C'était le truc qu'il ne peut pas dire à personne. Et c'est très dur, le roi Marc a des grandes oreilles. Et il le crie dans l'arbre. Et ça lui fait du bien, il est presque guéri, soulagé. Et donc il rentre et il peut faire son métier sereinement. Mais quand il rentre, le temps de son voyage, le barde du roi Marc a cassé sa lyre. Et c'est terrible parce qu'il ne peut plus faire des louanges ou des satires sur les héros et les personnes de la cour. Et du coup, eh ben, ils mobilisent tous les gens d'art et ils partent en voyage pour trouver un nouvel arbre pour fabriquer l'instrument. Et ils partent et comme ça, et puis ils voient un grand chêne, ils disent « Non, c'est pas, il est très beau, mais c'est pas celui-là. » Ils voient un grand pin, « Non, c'est pas celui-là. » Ils avancent jusqu'à la même clairière où il y a cet arbre avec ce trou au milieu, puis ils voient, c'est un grand saule majestueux. C'est le bois dont on fait les harpes, c'est le bois dont on fait les lyres. Et il le regarde dans tous les sens, il dit « Allez, on le coupe, on le met sur les chariots, on l'emmène, etc. » Et donc toute la fabrication de l'instrument se fait. Et le jour de la pose des cordes, ça se fait au milieu de la cour, on accorde l'instrument. Et les premières notes qui sont faites, la lyre se met à vibrer, à chanter. Il dit « Le roi Marc a des oreilles d'âne !» Et tout le monde connaît maintenant le secret du roi Marc. Et puis finalement, ça va mieux quand on casse le code du sucré. Et, il a continué à régner et à vivre. Voilà, une histoire d'arbre qui est liée à ces instruments premiers pour moi. La lyre, la harpe, qui sont les instruments de la mythologie, du récit celtique. Et en même temps, pas que celtique, parce que l'histoire du roi Midas, tout ça, c'est un peu la même histoire à travers toute cette grande Europe qui nous entoure. Et il y en a plein des histoires comme ça. Moi, je connais celle-là. Là, moi, j'utilise du tilleul beaucoup, du peuplier, de l'érable, du noyer, de l'épicéa, comme des bois de lutherie. Ils ont chacun leur importance. Mais dans ces genres d'histoires, même si on ne sait pas comment ils l'ont fabriqué dans les tailles, mais on a une notion du saule. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pour la caisse de harpe, par exemple. Et dans l'histoire, d'ailleurs, c'est une harpe, ce n'est pas une lyre. Je transforme les choses. Mais dans des vieux récits, on retrouve des petits éléments comme ça qui nous permettent de comprendre un instrument ou une partie de l'instrument, une façon de jouer. Quand ça parle d'un arbre, c'est chouette. Après, quelquefois, c'est confirmé par l'archéologie ou les traditions.
Il y a un bois que tu préfères, toi ?
Le tilleul. Le tilleul, comment ils appellent ça ? Le basswood en américain. C'est un son qui a beaucoup de basse, du sustain, qui a de la résonance. Et dans les traditions populaires, alors en France, je pense, et en Europe, c'est un bois qui chante et qui résonne, parce que quand tu es sous un tilleul, il est toujours gavé d'abeilles au moment de la floraison. Et c'est un bois qui bourdonne. Alors est-ce que ça a un retour sur le son qu'il procure après ? Je sais pas. Mais le tilleul, ouais, c'est un bois que j'aime beaucoup. C'est marrant. Et tirer les cartes avant de venir, et j'ai tiré une carte, mais j'y allais pour le festival, c'était l'arbre. Ça me revient là. Je me suis dit, je sais pourquoi maintenant, c'était ce petit échange de discussion. Voilà. Voilà. Le lien à l'arbre, je sais pas, non, j'aime le chêne qui est devant ma maison. Je me suis questionné, c'est quoi ce lien à l'arbre ? Je le transforme, c'est-à-dire que je le respecte, je le transforme, il m'inspire en fait. J'ai mon atelier au milieu de ma maison, fait avec des branches d'arbres, j'ai un chêne qui tient ma mezzanine. C'est tout ça. Ils sont très présents finalement. Du coup, même si j'en ai pas conscience, il est partout. Il est au fond de mes poumons en tant que travailleur du bois, là, on en a plein. C'est terrible aussi ça. On s'en rend pas compte, mais on en respire. Voilà. On le perd un jour, on fait de la beauté, mais on se fait du mal aussi en le travaillant. C'est peut-être le petit retour, le petit coup de bâton qu'il y a derrière. Avec mon collègue Jeff ce matin, là, qui est le monsieur avec les cheveux blancs et le chapeau, là, on parlait de partie invisible du bois. Alors, il aura le meilleur vocabulaire, c'est un grand bavard. Mais sur les vides qu'il y a dans le bois quand il sèche, tous les canaux qui amènent ils savent se charger aussi bien sur les flûtes surtout. Ils vont être remplis d'huile pour que le bois soit dur, etc. Mais il y a toujours de l'air et puis il va se remplir aussi des intentions. Et on parlait d'expériences qu'il a eues, il en parlerait mieux que moi, mais il fait une flûte, il la joue, il l'accorde, donc il lui donne un souffle de vie. Et il y a quelqu'un qui vient, qui est autre, qui est dans un état particulier, qui va jouer, qui va essayer d'amener une autre intention à l'instrument. Et quand lui, il le reprend, en fait, bah, il faut qu'il redompte l'instrument, parce que l'instrument a pris. Donc, ses pores invisibles du bois se sont chargés d'autre chose. Donc là, c'est le côté invisible de la matière. Et on peut être très cartésien en disant non, c'est juste de l'acidité, de la salive, des atomes qu'on projette, ou ce qui est innommable, qui est, voilà. Mais voilà, on travaille, on fait vibrer une matière qui est... C'est la cinquième dimension de notre travail, c'est le son. Voilà. C'est intéressant.
Sur les conseils de Benjamin, nous sommes allés voir le fameux Jeff. Jeff Barbe, célèbre facteur d'instruments à vent depuis plus de 50 ans, devant la table où il présentait ses flûtes, de roseaux, de bambou et de sureau. Jeff Barbe est une encyclopédie de la lutherie et il est aussi généreux dans le partage de son savoir et de ses histoires que les plantes avec lesquelles il fabrique des flûtes.
Je suis allé les voir, ces plantes-là. Je dis, hein, roseau, tu m'intéresses? Non, je n'ai pas dit ça comme ça, mais si, un peu. Ben, en fait, c'était... Je n'ai pas fait exprès de faire mon premier instrument. Ça s'est fait un peu naturellement. Mais c'était parce que le roseau était là. Et que le roseau, dans le midi de la France, il est partout. Ici aussi, à Saint-Jean, bien sûr. Et qu'il est gratuit. Tout le monde peut le prendre, tout le monde peut le couper. Surtout si on n'en prend qu'un morceau ici ou là. On peut traiter aussi directement avec la plante. Hein. Cher roseau, j'ai besoin de ta tige pour... Mais je sais que tu repousseras et donc il n'y a pas de souci pour toi. Tu seras toujours présent quand j'aurai besoin de toi. Et justement, cette présence, bah, je savais que je pouvais faire ma vie autour. Voilà. Donc, première question, mon rapport à cette plante. Merci roseau. De roseau, c'est passé au bambou. Et du bambou, c'est passé très vite aussi au sureau. C'est-à-dire les plantes, soit naturellement creuses, et donc on va dire à perce naturelle, parce que la perce c'est vraiment le conduit de la flûte, soit à perce aménagée comme le sureau qui contient une moelle et qui, en l'enlevant cette moelle, donne le droit d'aller progressivement vers une perce normale de flûte, dit cylindrique on va dire, et en avant progressivement tu l'agrandis avec des outils qu'on se fabrique, parce qu'effectivement ça, ils n'existent pas dans le commerce, c'est pas fait pour. Bon voilà, mais quand on veut obtenir ces plantes, on y va comme ça. Et le sureau, c'est pareil. C'est des plantes qui poussent très vite et très rapidement. Si on en tire dessus, l'année d'après, ça ne se voit pas. Au contraire, ils en auront fait d'autres. Le bambou, quand il commence à t'envahir, mais tu ne sais plus comment le tenir. Alors il faut avoir une grosse production pour pouvoir justement le maintenir un peu, mais peu importe. Voilà, voilà. C'est des plantes belles de toute façon et qui ont toujours aidé l'homme. Nous, les flûtes, enfin, les matériaux de ce genre, ça ne se voit pas ce qu'on prend dedans. On n'a pas de culpabilité vis-à-vis de ça, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc le sureau, ben, c'est bon, le roseau, c'est des plantes qui ont cette générosité. Et on a tendance à leur dire merci. Hein, voilà. Ce que ne ferait pas une industrie. Nous le faisons. Bon, je demande la permission. Bambou... J'ai besoin de ta chair. Et on le fait. Après une cueillette de bambou, je fume une pipe, à la manière un peu indienne, quoi, voilà, pour dire merci. Et j'envoie la fumée vers le bambou. Ça lui parle, sûrement. Donc je reviens l'année d'après, sans trop de culpabilité. Bon, voilà mes rapports avec la matière bambou. Enfin, matière qui me sert à faire mes flûtes. Ben le sureau, c'est un être puissant. Ben, il est fort, le sureau. Hein. Tu le vois pousser une année, tu le coupes, ras, parce qu'il te gêne. Mais si tu n'as pas tout enlevé, les racines jusqu'à la dernière, il sera là l'année d'après. Donc il sait survivre à ce genre de saccage, on pourrait dire. Ou en tout cas, de vouloir l'anéantir. Il est puissant. Il a cette vivacité. Donc je sais qu'en traitant avec lui, bon, je grimpe dans un sureau, surtout s'il est grand. Hein, et il pourrait bien casser une branche pour me dire « Tu m'embêtes d'être là, je t'envoie au sol. » Non, il me maintient. Hein, voilà, on arrive à s'entendre comme ça. Bon. C'est une plante vraiment qui a une force. On le ressent. Alors lui, chaque matériau a un son qui lui est propre. Par exemple, le roseau va être assez harmonique. Ça veut dire que dans le son que tu entends, tu as quelque chose d'autre qui se passe derrière, un autre son que l'oreille ne perçoit pas immédiatement, mais il y a quelque chose qui te dit, il y a quelque chose en plus. Si tu prends du bambou, tu en as encore plus. Et ça, c'est bien lié à leur manière d'être, c'est-à-dire des fibres longitudinales et autour du vide. Elles ont poussé autour du vide. Et donc, il y a cet aspect-là. Le sureau, lui, il n'a pas ça. Il est beaucoup plus régulier, donc il y a des gens qui vont rechercher plutôt le son du sureau à cause de sa régularité, beaucoup moins harmonique. Et les harmoniques qu'on aimerait entendre chez lui, il les rattrape dans les aigus. Quand on passe en deuxième, troisième octave, là on ressent qu'il y a aussi quelque chose. Mais dans les graves, il est droit. On va l'appeler droit. C'est une image quoi, pour définir ce son. Et moi j'aime bien aussi qu'il y ait ça. Ça fait une diversité qui s'entend dans les instruments. Et les gens peuvent en choisir celui qui leur plaît. Je sais que j'en vois beaucoup de fifres en sureau dans la région de Pézenas, par exemple, pour les carnavals, des choses comme ça. Montpellier, Béziers, enfin de tous ces coins. Et c'est mon pays d'origine, d'ailleurs. Ça me va bien. Et je ne suis pas arrivé là-bas à leur faire admettre que le bambou, ça pouvait être bien aussi. Et non, ils veulent coller à une tradition. Ils appellent ça le fifre de Pézenas. Ils y ajoutent un septième trou. C'est ça, c'est le leur. Et ils ont accompagné les carnavals avec ça. Tout à l'heure, il y a une dame, là, en début d'après-midi, qui est arrivée et qui m'en a pris un en bambou. Elle est de Pézenas. Ah, je lui ai dit, là-bas, ils préfèrent ça. Oui, mais moi, je... Ah, c'est celui-là qui me plaît. Bon, elle en a choisi un bambou. Ça y est, j'ai mis le pied avec le bambou dans la région de Pézenas. Qu'est-ce que ça fera? Je ne sais pas. Voilà. Donc, chaque matériau apporte son timbre, sa couleur de son à la musique. Et c'est ce qui est important. En tout cas, moi, je crois beaucoup à ces matériaux. Parce qu'ils ont cette capacité d'apporter un son, un timbre, une façon, une couleur de son complètement différente. Alors le son dépend à la fois de sa matière, et il y a une variété de bambous infinis, donc évidemment chacun apporte son petit truc, mais ils ont un caractère particulier propre à eux. Et donc chacun, on va retrouver d'une à l'autre. Et dans chaque variété, il y a aussi l'âge. Tu as raison de dire ça. Le bambou, si tu le prends jeune, il aura un son souple, velouté. Tu sens la fluidité du son parce qu'il a une matière assez peu dense et dure. Au contraire, s'il le prend vers 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, il sera de plus en plus dur et ça dépendra de ce qu'on veut entendre avec le son qu'il apporte. Si on veut un son qui soit vraiment nerveux et dur, on va le prendre le plus âgé possible, le plus dense possible et on va choisir les variétés qui correspondent à ça aussi. Voilà. Donc ça fait partie des recherches qu'on peut faire. Enfin, je n'ai pas fait la recherche tout de suite. Elle est venue progressivement en me disant « Ah tiens, ça apporte ça. Ah mais tiens, c'est encore différent. » Et celui-là, je l'ai coupé un peu jeune. Mais quand même, ah ouais, comme c'est bon. Voilà. Alors on s'aperçoit des choses. Et puis au bout d'un grand temps, comme moi, ça fait plus de 50 ans que je fabrique des instruments. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'observe ces choses-là, même si j'y pense pas toujours. Elles viennent à moi. Voilà, dans une flûte, quelle qu'elle soit, il y a des tas de paramètres. La matière y est, comme j'ai dit, pour 50%. Pour moi, c'est important de dire ça. C'est elle qui veut ou qui ne veut pas. Le bambou, ça a une tendance à la fente, par exemple. Mais des fois, dans une bambouserie, je vois un tronçon d'entre-nœud, enfin une partie de la tige, du chaume, d'ailleurs, ça s'appelle un chaume. Je vois cette partie et je me dis, ouais, ça me plaît, je le prends. Je regarde, c'est fendu. Normalement, je devrais le laisser. Surtout si c'est fendu, c'est que c'est sec. C'est qu'il est mort. Mais je le vois. Je vois l'instrument. Donc je le prends et je le fais pour moi. Et je vais reboucher les fentes, le ligaturer, faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit de nouveau autonome, enfin homogène, quoi, toute la longueur. Et je vais faire mon instrument là-dedans. Et celui-là, je ne vais pas le vendre. Je vais le garder pour moi. Ou, accessoirement, si quelqu'un vient à l'atelier, on s'entend bien. Tu cherches. Ah ben, essaye ça. Ah ouais, ça me plaît. Ben, c'est pour toi. Voilà. C'est parti des petits plaisirs qu'on se fait comme ça. Voilà.
Est-ce que c'est parce que c'est les plantes du paysage de votre enfance, du coup, si vous êtes de ce coin-là?
Oui, oui, oui. Ça a toujours été. Bon, quand on était gosse, oui. Ben oui. On en a fait des flèches, des arcs, des lances. On cherchait des roseaux de bien droit. On taillait une pointe, on allait au bord des rivières, on essayait de choper des poissons avec ça, évidemment. On n'en a jamais attrapé, mais bon. C'était pour passer du temps au bord de l'eau. Dans nos petites rivières, mais c'est une plante qui était toujours présente. On a fait des cabanes en roseau, des toits de cabanes en roseau. C'est le meilleur isolant qui soit, le roseau. Sur un toit recouvert de 20 cm de roseau, et des tuiles par-dessus. On ne craint pas le froid. Hein. C'est creux. Non, c'est des zones neutres. Et le froid ne passe pas à travers ça. Ils le savent, en Espagne, ils le font. Chez nous, on n'arrive plus à le faire, mais... on a trouvé des matériaux qui s'achètent, alors que celui-là, il ne s'achète pas. Voilà, c'est surtout ça.
Vous avez quand même un rapport affectif avec ces plantes, oui, avec lesquelles vous, oui, êtes
construit. Je les ai toujours remerciés. Et... C'est sûr, c'est affectif. Quand j'ai vu ce coin où j'allais régulièrement, recouvert de sale terre, de dégueulasse, vraiment un truc horrible, ah, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, mais ils ont réussi à faire ça. Essayer d'annihiler ce coin qui était si beau et tout, quoi. Non, ben, je vois que le roseau a réussi à passer outre tout ça. J'irai retourner le voir. Je l'ai conseillé de nouveau à ceux et celles que j'ai amenés là-bas. Leur dire, allez revoir. Tenons-nous au courant de tout ça. Probablement que ça va repousser. Et s'il y a des crues nouvelles, il y aura encore des longs entre-neufs. Ben, le paysage, c'est toujours pareil. Soit tu le regardes avec un ensemble, tu as une photo, tu as une image, tu pourrais le peindre, le photographier. Bon. Soit tu t'y intéresses pour une raison un peu plus précise. Et moi, c'est vrai que tout ce qui est sureau, bambou, roseau, quand je me promène, j'ai souvent d'ailleurs une petite scie, un couteau. Je vais participer du regard. Ah tiens, ça m'intéresse. C'est pas la bonne saison, bon, je note, mais je reviendrai quand ce sera la bonne lune et la bonne saison.
Est-ce que vous ramassez aussi en fonction de la lune ?
Ah oui. Il vaut mieux. Le roseau, on s'en fiche un peu. Lui, il est vraiment d'une grande sobriété. Il ne pose pas de problème avec la lune. Par contre, le bambou, ça m'a posé énormément de problèmes à une époque. Et le sureau, n'en parlons pas. J'avais des opportunités de cueillette de sureau, soit vers Pézenas, dans ma famille, quoi, enfin autour, soit dans ma belle famille, vers Marmande, de l'autre côté de la France. Quoi. Et c'était, bon, à Noël, évidemment, on allait dans les familles. Il y a plein de sureaux qui ont poussé, tout ça. Donc je connaissais mes coins. Et puis c'était ma balade chaque fois, chaque année. Quoi. J'allais revoir ce paysage. Je cueillais. Mais quand je regardais le calendrier lunaire, c'est pas bien ça. Là, les vers se mettent dedans. Et on perd pratiquement tout. Alors ça fait mal au cœur. Voilà, parce que... Alors il y aurait moyen peut-être de les protéger, de... Ben, il faudrait prendre beaucoup de temps pour ça. Moi, en général, je fais des fagots, je les fais sécher, je les laisse sécher au moins un an. Et après, si je veux accélérer, d'ailleurs, je peux flammer, je peux passer à la flamme. Ça caramélise, ça durcit le bois. C'est encore un paramètre qui rentre dans la constitution du son. Mais le fait de couper en mauvaise lune, si on ne fait pas gaffe à ça, on a vite fait de... Souvent, l'année d'après, déjà, les vers sont dedans. Et une fois qu'ils y sont, je peux faire des instruments. Je les cuis à la flamme aussi. Voilà. Ils sont gourmands. C'est que c'est sucré, en fait. Quand on est en lune montante, par exemple, et croissante en plus, à plus forte raison, les sèves montent. Et les sèves sont toujours riches en sucre. Et les vers, ils aiment ça. C'est évident. Donc on fait attention à ça pour ça, pour cette raison-là. Après, il y a des fois où je me suis dit, j'ai mal coupé, là, j'aurais pas dû, et puis il n'y a rien. Alors là aussi, c'est le petit mystère de la nature. J'essaie d'en savoir un peu plus. Je t'en dirai plus la prochaine fois. Ah, mais tiens, une qui a un son particulier. Je ne vais pas aller très haut dans le son, mais elle est déjà grosse. Il y a plus gros encore, mais ça, ça fait partie de ces fameux roseaux camargués. Là. Et j'aime bien le son qu'ils ont. Se passe. Ça donne chaque fois un son différent.
On a passé presque une heure avec Jeff Barbe. Et on aurait pu rester tout toute la journée s'ils n'avaient pas été aussi sollicités.
Oui, oui, oui. Ils sont venus.
Les Kabyles.
Oui, exactement. Ah,
très bien. Oui.
Ils sont venus à Joannas, ils ont joué.
C'est ça.
Voilà, c'est des amis. Hein.
Et oui, bah, ils me téléphonent assez régulièrement.
Et c'est lui qui m'a conseillé de venir vous voir.
C'est très sympa.
Voilà, donc je passerai.
Avec plaisir, il n'y a pas de souci.
Allez, au revoir. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi, au contraire. C'est pour moi.
Mais il a piqué au vif notre curiosité et on décide d'aller voir dans la pièce d'à côté. En vérité, c'est la cage d'escalier. Et là, il y a des flûtes en terre, en os, en bois et Jean-Daniel Talma.
Une histoire d'arbre.
Une histoire de bois.
Celui-là,
c'est pas celui-là que t'as...
Oui, oui.
C'est... Alors moi, je vais ramasser mes... Je vais cueillir mon bois.
Tu vas cueillir ton bois, c'est quoi comme bois?
Ah mais oui. C'est du sureau. C'est des branches de sureau. Et c'est un rendez-vous important dans l'année. Et on a... Enfin, je pense qu'on a un lien à l'arbre qui est... Parce que nous, on l'observe, on le regarde avec un regard peut-être différent, enfin, sûrement différent de la plupart des voilà, de nos contemporains. Donc... C'est se poser au pied de l'arbre et puis l'observer, regarder toutes les branches, comment elles se comportent dans l'espace. Et en fonction de ça, ben, en la couper ou pas. Et puis choisir du coup la bonne, celle dans laquelle on met toutes nos espérances. Et puis parfois en couper pour en laisser pousser une autre. On sait qu'elle va être intéressante, mais pas tout de suite. Donc y a le rapport à l'arbre. Et puis voilà, après l'arbre, ça marque nos vies, ça marque nos paysages. Moi, je peux pas concevoir de vivre dans un monde sans arbre.
Et en même temps, tu leur donnes une autre vie.
Ouais, complètement.
Et même, je pense que c'est pas le cas de tous les instruments, mais quand tu coupes du sureau, c'est une branche, tu coupes pas l'arbre.
Oui. Ça, ouais, tout à fait, exactement. C'est vrai que c'est un rapport différent à la plante que à quelqu'un qui va faire des flûtes en bois tourné, qui va couper tout l'arbre. Nous, on coupe que des branches, on prélève. Et dans certains cas, parfois, ça aide même l'arbre à mieux se porter, parce que dans son environnement, il est contraint par des éléments extérieurs, et puis parfois, juste enlever une branche, ça va lui permettre de soit de reprendre un peu d'énergie ou de pousser un peu différemment, plus harmonieusement, enfin voilà.
Et là, dans celle que tu tiens dans la main, on voit les départs de branches, enfin, on voit vraiment son passé d'arbre.
Ouais, là c'est... moi je fabrique des flûtes de berger, et c'est vrai que quand on regarde les instruments historiques fabriqués comme ceux-là, c'est rare que l'homme il garde l'aspect naturel du matériau. Je pense que parce que avant ces instruments-là, ils étaient totalement banals. La flûte, c'était fait dans une branche. Et du coup, on essayait, en tout cas, c'est ma vision actuelle, c'est comme ça que je l'interprète, que la branche, elle soit la plus travaillée possible pour que ça soit un objet complètement différent. Mais aujourd'hui, notre lien à la nature, il a changé. Du coup, quand moi, je laisse des nœuds, ben, ça raconte aussi la vie de la branche différemment, quoi. Je la mets plus en exergue, je la mets plus en valeur, quoi. Donc oui, celle-ci, elle a des... J'ai gardé des nœuds de la branche, donc on voit vraiment que c'est une flûte qui est faite dans une branche et pas avec, voilà, pas un simple tube tout lisse.
Et même en haut, c'est du sureau ?
Non, là, c'est une petite pièce que j'ai rapportée, qui est en poirier. Là, dans cette flûte-là, il y a trois essences. Il y a le poirier qui fait la petite chambre, le porte-vent, qui me permet en fait d'insuffler la flûte, mais en décalant l'entrée où je souffle. En fait, c'est une histoire de position, parce qu'elle est très grande, il y a des très grands écarts. Ça me permet d'avoir la flûte sans avoir à casser mes poignets pour atteindre les trous, et du coup avoir une facilité dans le jeu. Après, le bloc, il est fait dans du genévrier. Une branche aussi. Il y a un petit peu de liège, donc ça fait 1, 2, 3, 4 essences. Et puis ici, dans le pied de la flûte, le pied de la flûte, c'est un pied que j'ai rapporté, parce que c'était une des premières que je faisais dans cette tonalité, et je n'avais pas encore bien les... Je faisais des recherches de trous, et de placement de trous. Et sur mon tube, j'avais plein de trous rebouchés, repercés. Du coup, ça faisait une mosaïque de trous bouchés et repercés. Bon, ça, c'était pas optimal. Du coup, j'ai recoupé la branche et j'ai fait un petit tenon qui est fait avec une bague en buis. Voilà. Donc cette flûte, elle, en fait, elle a plein... Elle représente plein d'essences d'arbres différentes.
5, du coup.
C'est ça. Voilà.
Wow. C'est pour ça qu'elle sonne si bien, peut-être. C'est un concert... concert d'arbres.
Ouais.
Celles et ceux qui fabriquent des flûtes en branches de sureau, en bambou ou en roseau lisent le paysage et tissent avec lui et les plantes un rapport affectif. Ils repèrent, entretiennent et remercient les végétaux qu'ils travaillent. Et les autres, celles et ceux qui font des guitares, des flûtes en bois d'arbres fruitiers, des violons, des harpes ou des contrebasses, qui travaillent avec des arbres qu'il faut entièrement couper pour les faire sonner. Quelle est leur relation à cette matière végétale ?
Coupable.
Est-ce que je peux vous poser quelques questions et enregistrer ? Je suis assez fascinée par l'idée que tous ces instruments avant c'était des arbres. Et du coup, je demande aux gens s'ils ont une histoire d'arbre à me raconter.
Une histoire d'arbre ?
En lien avec votre travail.
compliqué. On m'a toujours dit de protéger les arbres. Tu vois, comme un gamin, on voit souvent, on arrache les arbres, des pousses d'arbres. Et je m'ai toujours dit, hein, ne l'abîme pas, parce que dans 50 ans, tu vas revenir ici et tu vas voir cet arbre. Donc j'ai toujours respecté ce principe. Et, j'espère que... On dit, oui, après l'arbre est coupé, j'espère que je donne de la vie à cet arbre que j'ai vu grandir. J'ai beaucoup d'amis qui choisissent leur arbre pour faire leur guitare, leur instrument. Je n'ai pas eu cette opportunité, mais c'est quelque chose qui est assez intriguant, assez passionnant aussi. Hein. Un lien. C'est très important pour moi aussi.
Quel bois ?
Moi, je travaille de l'épicéa, du cèdre, érable, acajou, palissandre, ébène, amarante et du contreplaqué. Quelle honte ! Mais ça fait partie de mes guitares aussi. Voilà. Cette matière qui est peu noble, qui est peu reconnue, pas très noble, on fait partie de certaines de mes guitares, hein, parce qu'il y a des qualités que je cherche aussi.
Mais vous faites quand même chanter des arbres.
Oui, j'ai fait chanter les arbres et à travers la guitare, je trouve une voix pour moi-même aussi. Grand timide. On est très attiré, quand on travaille le bois, on est très attiré par la matière, par les odeurs. Surtout avec les bois que j'utilise, des bois exotiques, c'est très fort l'odeur quand on travaille. Palissandre, par exemple, le cèdre, c'est magnifique aussi. Donc. Et on reconnaît le bois en travaillant, on se dit, ah, ça c'est du Sitka, la pisse de Sitka, ah, ça n'a pas la même odeur que la pisse d'Allemagne. Donc c'est vraiment, c'est ça qui m'a attiré le plus, je crois, dans le métier de bois. Parce que j'ai travaillé le métal aussi. On n'a pas les mêmes odeurs, on n'a pas les mêmes liens. Voilà. Donc, oui, ça fait partie du plaisir de travailler le bois. Ouais. Vraiment, c'est ces odeurs.
Cette pièce-là, qui s'appelle le bouchon de la flûte, est toujours dans un bois plus tendre.
Et là, c'est en quel bois, par exemple ?
Celui-là est en genévrier. Et j'utilise aussi un bois australien, avec une couleur un peu plus claire. Il faut que ce soit un bois plus tendre, pour ne pas... Parce qu'il va recevoir beaucoup d'humidité. En bon plan, il pourrait fendre la flûte. Mais s'il est plus tendre, il va juste s'écraser dans l'instrument, sans faire de dégâts.
Et vous avez appris comment ?
Difficilement. Ça fait une cinquantaine d'années en fait que je fais ça. Je suis en partie autodidacte et en partie assisté par des personnes qui ont travaillé avant moi.
C'est magnifique en tout cas. Parce que du coup, vous faites chanter les arbres, en fait.
Ben oui. Mais il faut les couper avant qu'ils chantent. C'est triste pour eux, mais c'est comme ça. Mais par contre, un morceau de bois va pouvoir durer plus longtemps que l'arbre dont il est sorti. Dans des musées, vous avez des flûtes qui sont âgées de 400, 500 ans. Ben, en fait, les arbres sont morts, seraient morts depuis longtemps et la flûte existe encore.
C'est beau.
Ben oui.
Est-ce que les différents arbres sonnent différemment ?
C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la forme de l'instrument. Mais on peut quand même dire que la surface qu'on obtient avec un bois comme ça n'est pas la même que celle qu'on obtient avec un bois plus dur. Donc ça va influer un tout petit peu sur la sonorité. Mais, j'allais dire, si je faisais cette flûte-là en buis, si j'en faisais une en buis, elle se ressemblerait. Mais celle en buis, elle serait juste un peu plus puissante. La raison, c'est que ces bois-là sont plus poreux, donc il peut y avoir des micro-fuites que vous n'allez pas avoir avec un bois plus dense. Bon, nous, on les colmate avec de l'huile, mais il peut toujours rester des micro-fuites. Et puis, un bois comme ça, il sera moins lisse que au niveau état de surface, hein, que du buis. Donc là, il y a une petite différence au niveau sonorité. Le buis est aussi plus dense. Donc, ils vont moins absorber de vibrations. Et je ne peux pas vraiment vous le faire comparer parce que la forme de l'instrument n'est pas la même. Mais... On a les mêmes notes, mais le timbre n'est pas tout à fait le même. Bon, il y a aussi la forme de l'intérieur qui joue.
En fait, là, on peut utiliser plusieurs bois pour la lutherie. Avec les mandolines, tu vois, ou les violons, la table, elle est souvent en épicéa. C'est des épicéas spéciales. Et ils sont spéciaux parce que il faut que les rainures, en fait, les veines, elles soient bien droites. Pour des luthiers, ils cherchent vraiment. C'est vraiment cueilli pour la lutherie. C'est pas juste cueilli pour faire des meubles ou. Mais bon, avant ils faisaient des trucs à camembert, là, fromage. Ils utilisaient l'épicéa, tu sais, avant. Bon, du coup. Et dans la forêt, dans le Jura, là, il y a des épicéas très vieux qui poussent très droit où il n'y a pas trop de vent. Et donc, c'est là que la plupart des épicéas pour les tables, ils sont cueillis. Mais il y avait un homme qui s'appelait le cueilleur d'arbres. Et qui cueillait je parle de Lorenzo, le cueilleur d'arbres. Il arrivait en fait à rentrer dans la forêt et à choisir l'arbre qui était bon pour la lutherie. Mais en fait, il disait, c'est pas moi qui choisis l'arbre, c'est l'arbre qui me choisit. Et du coup, et c'est un arbre sur peut-être 5000 qui est bon pour la lutherie, tu vois. C'est vraiment. Spéciaux. Donc quand même, il se sentait attiré par l'arbre. Après, il vérifiait quand même, il enlevait un peu d'écorce, il regardait, puis hop, il faisait une petite prière avant de le couper. Il montait dans l'arbre déjà, coupait toutes les branches, 80 ans. Il coupe toutes les branches comme ça, à la corde. Il redescend, et il fait la prière, et puis quand il tombe, en fait, il abîme aucun autre arbre, parce qu'il a tombé, il a fait tomber toutes les branches. Et paf, il tombe, avec le respect et tout. Bon. Du coup, il y a des super... tables là en épicéa qui sont justement cueillies par lui des 2007 très bons crus.
Il y a des crus.
Des crus. Non mais c'est comme le vin. Oui.
C'est la première fois qu'on entend parler d'un cueilleur d'arbres. Alors on est allé voir ce documentaire Lorenzo cueilleur d'arbres produit par la RTS. On vous en propose un extrait.
« J'ai entendu un bruit de gros souliers qui montaient les escaliers jusqu'à l'atelier. Je me suis bien demandé qui c'était. À l'époque, personne vraiment savait que j'avais installé ma lutherie ici. Et là, il y a un monsieur qui est un peu bizarre, un peu tordu, qui est apparu dans l'atelier, qui prétendait que c'était lui qui avait trouvé le bois que j'avais devant mon atelier. Il m'a dit, c'est moi qui ai trouvé cet arbre, avec un accent très rugueux. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Lorenzo Pellegrini. Et puis, je ne l'ai pas forcément pris au sérieux tout de suite. C'est au fur et à mesure de son contact que j'ai découvert à quel point cette personne connaît des choses qu'il est le seul à connaître. Et franchement, c'est une des plus belles rencontres de ma vie. Cette forêt, elle recèle des trésors qu'on appelle le bois d'harmonie, le bois de résonance, les épicéas rouges. Ces épicéas-là, ils poussent avec une très grande lenteur et ils génèrent un bois qui est très serré et très tonique et qui est parfaitement adapté à la lutherie pour la fabrication des tables d'harmonie. Si ce bois existe en forêt, c'est parce que l'humain a jardiné cette forêt pendant des centaines d'années. C'est nos arrière-arrière-arrière-grands-parents qui ont jardiné la forêt pour permettre la pousse de ces arbres parfaits. Et Lorenzo, il a la mission de continuer ça, de telle manière que les luthiers, dans 100 ans ou 200 ans, ils aient encore du bois d'harmonie. C'est le tout début de la chaîne de construction d'un instrument de musique. C'est une chance inouïe d'avoir quelqu'un comme ça. Parce que Lorenzo, il nous montre le tout début, il nous montre des tout petits épicéas en disant bah, celui-là, ceux-là, ce groupe-là, il faut les préserver, il les redresse, il coupe un petit peu les hêtres autour, il jardine vraiment. Bah, c'est un privilège de voir ça et de comprendre le sens que ça donne au travail qu'on va faire après.
Voilà, lui, après là, il pourra...
On vient de lui sauver la vie.
Lui, c'est un cueilleur d'arbres. Et grâce à lui, ben, on peut repérer des arbres de résonance qui sont extrêmement rares, parce que quand on parle d'épicéas rouges, évidemment, tous les épicéas rouges ne sont pas des arbres de résonance. Il y en a 1 sur 10 000.
C'est là-bas, hein?
Oui.
On vous conseille vivement d'aller voir ce film, Lorenzo Pellegrini, le cueilleur d'arbres. Il est en ligne en accès libre sur YouTube. On vous conseille aussi d'aller voir le travail de Sarah Evans, la seule femme luthière qu'on ait rencontrée ce jour-là et qui nous a confié une magnifique histoire d'arbres.
Je vivais j'ai grandi à côté d'un noyer et ce noyer, j'avais ma cabane dedans. Je passais des heures dans ce noyer. Cet arbre où on se sent trop bien, on se sent en sécurité, c'est la petite cachette. Enfant, je passais des heures là-bas. Et un jour, ben, bien sûr, il est devenu très vieux ce noyer et puis il avait. Il est tombé un jour parce que de vieillesse, on va dire. Et donc mes parents, ils ont décidé de le mettre en planche. Ils travaillaient déjà le bois, mes parents, mais moi, je faisais autre chose à ce moment-là. Et j'y ai pas du tout pensé à cet arbre pendant des années. Et puis, de fil en aiguille, de jour en jour, je jouais de l'art. Déjà, je commence à fabriquer des arbres. Et il y a un nouveau modèle qui me vient, magnifique, et je me dis, mais quel bois que je vais utiliser? Et là, ça m'est revenu, mais comme une évidence, le noyer de mon enfance. Et c'était magnifique de travailler ce bois, d'être avec, de passer du temps, de ressentir, j'avais l'impression d'avoir des souvenirs qui me revenaient pendant que je travaillais sur la harpe. C'était magique. Et les premières cordes, quand j'ai mis les premières cordes, alors là, trop touchant, quoi. J'étais vraiment aux anges, un peu comme cette sensation de hyper bien-être dans mon arbre. Et là, aujourd'hui, on me dit, mais on dirait que c'est une extension de toi quand tu joues cette harpe. C'est drôle. Et je suis trop heureuse parce que c'est comme une seconde vie. C'est vrai que c'était un peu triste que ce noyer, il tombe, qu'il est, voilà, il était vieux et c'était un très grand arbre. Donc, ça fait une disparition, quoi, dans un lieu. Et en fait, il a une deuxième vie, vie d'instrument, nomade. Je l'amène partout. On joue tout le temps. C'est vraiment l'instrument qui m'accompagne tout le temps.
Yes. Sinon, tu fais des harpes en plein de bois différents.
Oui, surtout des bois d'essence locale, donc de l'érable sycomore, de l'érable, des merisiers, du poirier et puis le noyer qui a vraiment des teintes tellement variées entre très clair à très foncé, donc c'est super beau. J'ai déjà fait des mélanges, c'est assez intéressant. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'en faire une en chêne. Et en ce moment, je suis sur une création d'une harpe en chêne. Et la caisse d'harmonie était en poirier. Donc on avait un mélange comme ça, c'est assez, tout à fait possible aussi. Certains bois vont vraiment avoir des particularités sonores. Ça dépend ce qu'on recherche, quoi. Mais ça fait aussi des jeux de couleurs très beaux si on mélange les bois.
Tu achètes le bois ou tu choisis
Alors, parfois...
Tu choisis les arbres.
Parfois, il arrive que des amis me disent « Ah, j'ai un arbre dans le jardin, je sens qu'on va le couper, on va le laisser en grume pendant quelques temps. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais voir. Ah ouais, je pense que ça peut être chouette. Je reviens quelques années après, je le prends. Et là, j'ai un copain qui a une scierie mobile et on le scie ensemble. Et là, on voit vraiment si ça peut être utilisable pour la harpe. Et donc il y a déjà tout un cheminement, quoi. Je vois où l'arbre il a poussé, ça c'est trop chouette, j'adore ces choses-là. Et d'autres fois, bien sûr, je vais à des scieries spécialisées avec des bois locaux et qui font vraiment qui cueillent les arbres à la bonne lune, parce que pour moi en tout cas c'est assez important à quel moment on va couper les arbres pour le travail après, quoi, avec eux. Et une autre histoire de noyer extraordinaire, c'était que une chanteuse qui chante en occitan, elle me commande une harpe du même modèle que celui que j'ai fabriqué en noyer. Et il se faisait qu'à ce moment-là, j'ai un très bon ami qui est musicien, chanteur occitan, qui me dit « Tu sais, j'ai un noyer dans le jardin, là. Ça fait longtemps qu'il est en grume, donc il est prêt à être scié. Viens voir qu'est-ce que t'en penses. » Il était extraordinaire, il était trop beau. Et là, il me raconte l'histoire du noyer. Et ce noyer, son père à lui, chantait des chants occitans sous l'arbre pour tous ses enfants. Et donc lui, il a passé son enfance à écouter les chants sous cet arbre-là. Et alors, je le dis à mon amie là, qui a commandé la harpe. Et elle était tellement touchée. Elle fait aussi des chants occitans. Alors, c'est la passation du chant. C'est magnifique.
Ah ouais, c'est trop.
Ouais, c'est comme si les arbres ils continuent à nous enseigner, même quand ils sont en instrument de musique.
Et c'est quoi les critères quand tu vois s'il est bien ou pas ?
On regarde s'il n'est pas évidemment piqué, s'il n'a pas trop de nœuds, s'il a la fibre bien régulière. Et après, parfois, tout ça, ça peut être OK, mais en le travaillant, on se dit « Ah, en fait, elle a un petit peu de tension et du coup, ça peut être difficile à travailler et surprenant, faire des claquages surprenants. » Mais c'est qu'en travaillant qu'on sait ça en deuxième partie. Mais en première partie, juste déjà d'observer son grain, comment il a poussé. Est-ce qu'il a poussé vite ? Est-ce qu'il a poussé lentement ? Ça y joue aussi sur le son. Des grandes cernes, des plus petites cernes, voilà, c'est... passionnant.
Ouais, c'est un beau métier. Avec des belles histoires.
Ah, c'est ça, ouais.
La grande, elle est en quoi, là ?
Elle est en merisier. Un petit peu rose, comme ça. Et chaque fois, c'est la surprise quand on va scier, qu'on va... peaufiné, là on va, ouais, c'est magnifique, c'est vraiment, c'est beau.
Des rencontres à chaque fois,
ça se dévoile petit à petit, Et ils ont chacun leur personnalité, les harpes. Ouais, c'est drôle. Leur propre sonorité, des fois, une harpe va sonner direct, très très brillant. D'autres vont sonner plus rond comme son, et puis petit à petit s'ouvrir. C'est vraiment c'est très différent. Création unique.
Le mot de la fin de cette émission va être long. Il faut d'abord remercier infiniment tous les luthiers et les luthières qui ont accepté de répondre à nos questions ou de nous raconter une histoire d'arbre. Sarah Evans, Philippe Bolton, Jeff Barbe, Jean-Daniel Talma, Sean Woolley et Benjamin Margoton. Un immense merci aussi à Raph de nous avoir prêté son enregistreur au Débeauté et à toute l'équipe de Boulegan pour la superbe organisation de ce festival. Pour les infos et les ressources, tout est comme d'habitude sur le site de Radio Galère à la page de l'émission, mais ici, quelques pistes pour continuer l'aventure avec Jean-Daniel Talma.
J'ai un concert solo que j'appelle « Du vent dans les branches ».
Okay.
Et qui raconte, enfin, qui évoque le lien de l'homme avec l'arbre à travers la chanson française et puis mon travail de facteur de flûte, quoi, et de flûtiste. Du coup, c'est un programme où je chante des chansons qui parlent d'arbres. Ça va du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, Brassens par exemple. Et puis après, les flûtes qui sont faites dans des branches poussent. Du vent dans les branches, ça s'appelle, parce que voilà, à la fois symboliquement et puis de manière
très littérale.
C'est ça, exactement. Et ouais, le lien à la plante, bah ouais, c'est bien, c'est une super initiative parce qu'on en a besoin. Notre société en a besoin. Et j'ai un podcast sur les flûtes du monde aussi.
Ah ouais?
Je suis apprenti intervieweur. Ça fait un an qu'on a... Non, même pas un an. On a lancé officiellement le podcast.
Il s'appelle comment ?
Souffle partagé. C'est... là, pareil, il y a deux... Il y a deux sens de lecture. Souffle partagé, des histoires de souffle, quoi. Et puis après, la flûte fonctionne parce que le souffle se partage sur l'arête.
Dicoti, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez toujours nous réécouter sur le site de Radio Galère, radiogalère.org, à la page de l'émission Dicoti les dondes. Et vous pouvez aussi nous écrire, nous faire part de vos idées, de vos commentaires, de vos retours. Notre adresse mail, c'est dicoti@etik.com, dicoti@etik.com. On termine avec le chant du sureau, un cadeau de Maxence des Oiseaux lors de sa conférence sur l'histoire des flûtes de la préhistoire à nos jours à la Maison Rouge dans le cadre du festival Boulegan où a été enregistrée cette émission. C'est donc pour terminer cette émission Maxence des Oiseaux à la Fujara, une très très grande flûte en bois de sureau. I'm going to go to the hospital. C'est tous les quatrièmes mardis du mois de 16h à 17h sur 88.4 si vous êtes à Marseille et sinon sur radiogalère.org.